Écrit l'ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour Emmanuel Urbu.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit aujourd'hui Emmanuel Urbu pour son livre « S'apprivoiser, confession d'un ex-bipolaire en consultation ». Paru en 2023 aux éditions Henrik B. Édition. Alors Emmanuel n'est pas un inconnu puisque nous l'avions déjà reçu en décembre 2021 pour une nouvelle parue en 2021 et qui s'intitulait « Consultation ». Également sur la question des troubles bipolaires. Alors Emmanuel, pour commencer nos échanges, on ne va pas poser la traditionnelle question autour de qu'est-ce que l'écriture pour toi, mais plutôt comment passe-t-on en 2 ans de la consultation aux confessions ?
Ça avait commencé par le désir d'écrire à mon psychiatre. Donc, j'avais décrit une consultation fictive, celle dont je rêvais, dont j'aurais aimé avoir été le patient 20 ans auparavant. Donc j'avais écrit cette nouvelle, une fiction, qui a intéressé beaucoup de monde, j'irais, jusqu'à la Fédération française de psychanalyse et de psychothérapie, la FFDP. Et se sont mis, vous savez, c'était une auto-édition, à lire grâce au réseau, à la fois des patients, mais aussi des professionnels, jusqu'à ce que je me dise, si ce texte plaît autant l'envoyer à un éditeur, sachant pertinemment que on ne publie pas 35 pages d'un inconnu quand on est un éditeur. Et donc, j'avais un espoir que cette consultation l'intéresse et qu'il soit intéressé par, qu'il ou elle soit intéressé par l'histoire derrière, l'histoire authentique, en fait, toute ma progression vers le rétablissement de troubles bipolaires. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Un éditeur, Henrik Barbillon, a lu Consultation et m'a dit « Écoutez, Emmanuel, moi, j'aime beaucoup votre style, j'aime beaucoup votre humour, la manière dont vous amenez les choses, mais je veux l'histoire vraie. Je veux la même chose, mais l'histoire vraie. » Voilà. C'est ainsi que, d'une consultation, j'ai eu une commande de mon histoire, et il m'a aidé en quelque sorte, puisqu'il m'a demandé la même chose. Alors je lui ai dit, je vais vous faire 20 consultations qui vont se prendre place au départ au moment du diagnostic, donc lorsque j'ai 36 ans, et pour s'achever une quinzaine d'années plus tard, c'est-à-dire il y a environ 2 ans, vraiment, en temps réel, je fais une consultation à peu près à chaque fois qu'il se passe des choses importantes. Alors, pour bien expliquer ce que sont les troubles, pour bien expliquer ce que sont la relation avec un psychiatre, et puis les moments de rechute, les moments d'hospitalisation, voilà. On fait vraiment tout le parcours qui a été le mien de façon totalement authentique. Donc, on est passé d'une consultation fictive, rêvée, à un livre qui fait plus de 350 pages et qui raconte vraiment tout mon parcours de rétablissement des troubles bipolaires.
Merci beaucoup.
En effet, dans son récit « S'apprivoiser, confession d'un ex-bipolaire en consultation, Emmanuel Urbu raconte des épisodes de sa vie chaotique. Un psychiatre pose finalement un diagnostic, il est atteint de troubles bipolaires. Puis ce sont de longues années de traitement et de rechute avant de parvenir à un rétablissement. Les commentaires en voix off apportent humour et une bonne dose d'autodérision.
Alors justement, on va parler justement de la question de l'humour peut-être et de l'autodérision, de la petite voix intérieure, cette espèce de dialogue, ce commentaire qui commente en fait tes consultations ou ce qui se passe dans ta tête. La question humour et autodérision, ça fait partie du processus de rétablissement. C'est indispensable ou pas, ou c'est autre chose?
Alors, pour moi, ça a été indispensable. Mmh. C'est toujours difficile de parler pour les autres, et j'en croise beaucoup.
Bien sûr.
Vous imaginez, en écrivant ce type d'ouvrage. Pour moi, je pense que l'humour était présent chez moi. On va dire qu'au début du livre, je suis un futur diagnostiqué bipolaire. Je suis aussi un gros branleur qui rigole beaucoup, très fêtard. Donc, il y a vraiment une base d'humour. Maintenant, dans le livre, on voit comment je traite les choses a posteriori. Et cet humour, il est à la fois un peu cynique sur le monde, parce que c'est l'humour de quelqu'un qui souffre et qui a une vraie dose d'humour noir. Je pense qu'il y a une évolution à travers le livre. C'est qu'au début, j'ai décidé, et parce que je le vis ainsi et j'ai vécu mes consultations ainsi, d'avoir cette troisième voie que je mets en italique dans les consultations, où en fait je commente, et c'est ce qui se passe dans ma tête, je commente ce que je vois. Donc je commente et je parle de mon psychiatre. Je suis donc, on peut lire ce que je dis à mon psychiatre et ce que je pense de lui en même temps. On peut voir aussi les différences. Et là, il y aura beaucoup de dérision. Et je pense qu'au début du livre, on va retrouver beaucoup de traits d'humour un peu cyniques sur la médecine, sur les troubles et de plus en plus d'autodérision, parce que pour se rétablir, il faut admettre qu'on fait partie de ce système de soins, accepter l'aide du psychiatre. Et donc, si on commence par se foutre de lui, mais qu'on s'arrête là, on ne va jamais se rétablir quelque part. Il faut qu'on rentre dans le jeu. Et donc, moi aussi, je fais partie de ce jeu, de la relation d'aide. Et donc, l'autodérision est devenue une défense, c'est clair, pour supporter ce qui est intolérable, mais aussi un facteur de rétablissement pour l'alléger. C'est-à-dire que pour tous ces moments dramatiques, parce que j'ai quand même des graves accidents, outre la souffrance morale et la souffrance physique, des conflits en famille, des choses très lourdes à porter, des ruptures sentimentales, vraiment des choses. Et regarder, apprendre à regarder avec un sourire en coin et de plus en plus, je pense, avec bienveillance. C'est pour ça que je pense que je suis passé d'un cynisme à 30-35 ans à une autodérision bienveillante. Et je continue à me fiche de moi, vraiment. Mais ce matin encore, c'est vraiment un mode de relation à soi. Pour ne pas se prendre trop au sérieux, mais pour ne pas trop dramatiser ce qui nous arrive.
En Merci. Tout cas, pour le lecteur, c'est bien. Je vais dire tout simplement parce que, enfin, moi j'ai lu ça comme ça. C'est que parce que c'est vrai que les faits relatés sont quand même assez lourds. Donc, du coup, ça fait des respirations dans le récit qui permettent de poursuivre quoi. Moi j'ai trouvé ça vraiment agréable.
Et donc, effectivement, hein, c'est ce que dit Martine, ça allège le récit. Autre élément, alors, on va dire incontournable, omniprésent, la place de la famille, de l'entourage, avec une note toute particulière pour ta mère, dont tu dis cette très belle chose en exergue, à ma mère qui m'a appris le sens, le vrai sens du mot inconditionnel. Donc, peut-être dire effectivement, parce que ce livre, tu le dis aussi, ça s'adresse aussi aux familles, à l'entourage, pour les aider à comprendre. Voilà. Est-ce que tu as envie de plus développer ?
Oui, les troubles psychiques, c'est terrible pour la personne qui en souffre. C'est aussi terrible pour les proches, parce qu'on se sent complètement incapable au départ d'aider. On ne sait pas quoi faire. On commet des maladresses en tant que proche. Maintenant, j'arrive, à parler. J'ai tellement été en communion, certainement, avec ma mère que j'ai écrit d'autres textes. Hein, et elle m'a dit, mais c'est incroyable, on dirait que tu savais ce qui se passait dans ma tête. Je lui ai dit, mais quelque part, on est conscient. Alors ça, il faut du temps hein, pour pouvoir le ressortir et l'écrire. Mais la place de la famille, c'est crucial et à la fois, parfois, c'est là d'où est parti le premier déséquilibre. Hein. On sait très bien que y a trois types de facteurs dans les maladies psychiques. Il y a la génétique, bon, ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Il y a l'environnement, et l'environnement, la famille en fait partie, et la construction de la personnalité. Et la construction de la personnalité, elle se fait très souvent au sein de cette famille. Donc, c'est à la fois, on ne va pas dire que la famille est la cause, mais la personne grandissant dans la famille va forcément avoir des conflits. Alors, ça peut être entre frères et sœurs, avec les parents, à différents stades qui vont construire. Et quand le trou va se déclarer, il va souvent y avoir beaucoup de conflits parce que au-delà du passé, ce sont juste les personnes qui sont en première ligne. Hein. Voilà. Le fait que je remercie l'amour inconditionnel de ma mère est franchement très simple. Elle ne m'a jamais fermé la porte. Alors que je pouvais me mettre dans des états d'alcoolisation, je pouvais disparaître des semaines entières, elle n'avait aucune nouvelle de moi. On en a discuté hein, depuis, je sais pertinemment que à une époque, c'était l'époque de la psychiatrie d'il y a plus de 20 ans, on lui a conseillé de couper les ponts avec moi. Et bon, elle s'en est sentie complètement incapable et je la remercie parce que je me demande ce que je serais devenu, franchement, si j'aurais commencé à errer dans la rue. J'ai déjà failli mourir plusieurs fois d'accidents, de tentatives de suicide. Si cette porte, en plus, avait été fermée, très franchement, je ne sais pas où je serais aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Alors moi, j'ai une question par rapport au regard des autres qui rejoint un petit peu le regard essentiel de la famille. Donc je vais lire un petit extrait. À la clinique, il n'y a pas de regard en biais comme dehors. Le personnel est bien formé, les patients sont naturels. En famille, en vacances, il y a toujours des regards dérangeants. Savez-vous comment je reconnais un regard dérangeant ? Il allume ma boule au ventre instantanément. Un regard dérangeant est produit par une personne qui est dérangée par votre présence. Tout le monde peut le ressentir. Tout le monde peut le faire subir à un autre. Habituellement, alors, entre guillemets, les handicapés, les gens de couleur et les homosexuels ont à pâtir de ces regards. C'est bizarre. Beaucoup de mes relations ont au moins une de ces qualités. Une simple étiquette peut vous attirer beaucoup de ces regards. Peu de gens remarquent la paralysie de ma main gauche ou m'en parlent. Mais dès que l'étiquette de bipolaire m'est collée, les regards en coin percent. Donc, Bah, moi, ma question, c'était par rapport justement au regard, pas seulement sur les troubles polaires, bipolaires, mais sur les troubles psychiques en général, quoi. Qui finalement, si on annonce à une personne qu'on a une maladie, bon, je ne sais pas moi, cancer par exemple, mm-hmm. tout le monde. Par contre, si c'est pas du tout la même réaction, le même regard, donc, en ce qui, même si ça a évolué, j'ai l'impression quand même.
Ça évolue. Alors, personnellement, ça devient un peu difficile de savoir. Alors, je remarque toujours les regards en biais. C'est-à-dire, un regard en biais, c'est très souvent. Vous dites, oh, je souffre de troubles bipolaires. Et là, dans les deux secondes qui suivent, la personne va souvent avoir un tout petit recul. Et elle va pencher un peu la tête elle est en train de penser à quelque chose. Oula, il a des troubles psychiques. Voilà. Donc ça, on le ressent et on prend tellement l'habitude, il y a comme un réflexe. Depuis que j'ai sorti mon livre, moi, je me suis tellement affiché que... alors, je pense que je fais œuvre militante quelque part parce que je les sens moins parce que voilà, je suis l'auteur qui déclare haut et fort qu'il a des troubles bipolaires. Et donc, là, il y a eu une évolution sur moi, mais je ne sais pas si elle est liée à une évolution de la société ou si elle est liée à une évolution parce qu'il est auteur aussi. Donc, on me perçoit différemment.
Une autre statut social qui s'est...
Ouais.
Alors, c'est le moment de la pause musicale. Emmanuel a choisi Johanna Rejas, « I didn't know where to go ». Vous êtes bien sur Jet FM 91.2, Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Urbu pour son récit « S'apprivoiser, confession d'un ex-bipolaire en consultation ».
Alors Emmanuel, on a entendu et je pense que tout le monde comprend qu'effectivement être entouré, avoir une famille qui à la fois est le nid et le nœud malgré tout hein, dans ce que tu dis, mais qui garde cet accueil inconditionnel est important. Quelque chose aussi qu'on aimerait bien voir interroger avec toi, c'est on voit ton livre est truffé de références littéraires, truffé de références philosophiques. Alors truffé... vous ne le voyez pas, mais Emmanuel hoche un peu la tête. Donc, peut truffer, oui.
Ça va, beaucoup de références. C'est pas non plus incompréhensible.
Beaucoup de références. Et moi, la question qui nous vient, c'est par ailleurs, tu as un parcours professionnel et, comment je dirais-je, d'études, on va qualifier de brillant, supérieur. Est-ce que cette culture, cette érudition, c'est aussi un outil pour travailler son rétablissement hein?
Oui, ça l'a été parce que c'était mon parcours, donc je ne suis pas avoir le parcours d'un autre. Ça l'a été. Maintenant, je suis vraiment pas persuadé, pour avoir rencontré beaucoup de gens qui souffrent de troubles et qui se rétablissent, que c'est indispensable. Hein. C'est, et il y a une chose que j'aime bien expliquer que c'est toute une partie de mon rétablissement s'est passée par essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, au début, on comprend avec un psychiatre, c'est ce que j'explique pendant tout ce livre, mais je fais aussi référence dans le livre à mes consultations chez un psychanalyste. Donc là, on est... Bon, peu importe l'école, hein, là, c'est un psychanalyste. J'ai rencontré d'autres types de thérapeutes, mais la psychothérapie qui aide à se comprendre soi-même, c'est essentiel. C'est-à-dire que quand on a des comportements qu'on ne comprend pas soi-même, il faut en parler. C'est-à-dire que le pire hein, pour quelqu'un qui souffre de troubles psychiques, pour moi, c'est même s'il a un psychiatre et des médicaments, c'est de rester dans ce vase clos. Il faut aller parler à d'autres professionnels, des psychologues, des thérapeutes, de ce qui se passe dans notre tête, dans nos vies, quand on a ces comportements qu'on ne comprend pas, quand on se met en colère. Voilà, il faut déconstruire tout ce qui nous arrive et vraiment la parole est ultra importante à ce moment-là. Et là, j'en reviens en fait à ta question, c'est qu'au-delà de ça, oui, certaines lectures philosophiques, moi, m'ont permis, en particulier Frédéric Lenoir, avec des livres comme La puissance de la joie, où il réexplique toute la philosophie de Spinoza, qui est vraiment ça, hein, basé sur la puissance de la joie. Si En lisant des pages comme ça d'un philosophe qui a un rapport au monde où il nous convainc, hein, mais c'est vraiment un travail de philosophe, que si on se lève et on va vers le monde avec de la joie en nous, elle va vraiment se développer et elle va nous revenir. Et c'est pas juste une phrase dite en l'air comme ça, non, c'est 250 ou 300 pages d'explications. Ces livres-là, d'autres livres autour de la méditation, d'autres auteurs, moi, m'ont vraiment aidé. Donc, on est entre la philosophie et la spiritualité, et ce sont des livres que j'ai sans doute lus parce que j'avais fait des études, mais je ne suis même pas persuadé. Il y en a qui sont vulgarisés, certainement plus simples. Oui, ça apporte une capacité, une facilité à se mettre à distance de soi. Et quand on a des troubles, c'est très important de pouvoir ne pas toujours se voir avec le trouble, mais se dire, OK, moi je suis Emmanuel et où je souffre de troubles bipolaires. C'est différent, les deux sont différents, je ne veux pas m'identifier totalement. Qu'est-ce qui fait partie de moi? Qu'est-ce qui fait partie de la maladie? Là, la philosophie peut être très utile.
Merci beaucoup.
Ben, ça rejoint en fait un peu la phrase que donc une phrase qui m'a interpellée. Enfin, il y en a plein, hein, mais enfin bon. À un moment donné, tu écris en bref, je m'aime sainement et non plus narcissiquement comme avant. Et je ne sais pas si tu veux ajouter ouais, quelque chose ou.
Ben, alors. Vous voyez, oui, peut-être que j'ai la notion de narcisse, enfin de comme référence, mais ce que je veux dire, s'aimer narcissiquement, c'est ce que je faisais, je pense, jusqu'à 30 ans. C'est je m'aimais, j'aimais un idéal de moi qui n'était pas moi, et j'ai commencé à m'aimer sainement. J'ai commencé à aimer ce que j'étais, avec mes défauts et mes qualités, en reconnaissant, en toute dignité, que, bah oui, j'avais beaucoup de défauts, mais j'avais quand même des qualités. C'est un amour plus équilibré. Pour se rétablir, il faut continuer à s'aimer.
Merci. Alors, peut-être, Emmanuel, donc nous, on a lu ton livre, on a orienté nos questions, forcément, donc elles sont partiales. Est-ce que toi, tu aurais envie de rajouter quelque chose qui tient particulièrement à cœur à propos de ce travail, de ce livre et de ton actualité, peut-être?
Oui, alors c'est un livre qui est sorti il y a un an maintenant, qui fait son chemin, qui s'est installé un peu dans le rayon psychologie des librairies. Il touche à la fois, évidemment, les gens qui souffrent d'un trouble, mais il faut être déjà un peu rétabli pour pouvoir lire ce genre de livre. À mon avis, il touche autant les proches et les soignants. C'est-à-dire que le fait de se faire parler, et c'est très rare hein, de trouver des livres où un psychiatre va parler la moitié du temps. C'est-à-dire que il a tout relu, hein, il a tout approuvé. Donc là, c'est vraiment la relation d'aide, la relation avec son médecin qui est dedans. Et bon, ça, ce sont évidemment les gens qui peuvent être intéressés par ce type de livre, mais bien au-delà, j'ai eu des témoignages vraiment très touchants, d'ailleurs souvent de proches, hein, il faut avoir une raison pour aller vers le livre, de gens qui m'ont dit, mais moi, ça m'a fait vraiment réagir, réfléchir sur ma vie, à moi, parce qu'on a tous besoin de prendre une distance, on a tous, pas forcément des troubles psychiques, mais des difficultés. Et tout le chemin que vous avez fait adoptant une meilleure hygiène de vie, en vous tournant vers la méditation, vers l'activité sportive, vers plus de calme dans votre vie, pour en fait vous rétablir dans les vies de fous qu'on mène. Je pense que vous avez raison. Et donc, c'est beaucoup de gens, en fait, en dehors des troubles, m'ont dit votre livre nous a amené comme un vent d'espoir et de dynamisme pour aller mieux, nous aussi, alors qu'on ne souffre de rien à l'origine.
Bon, on va arrêter là, parce que là, ça y est. Je vais passer la dernière chanson choisie par Emmanuel. Nina Simone, Feeling Good.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. River running free, you know how I feel.